Vous écoutez RFI, les 6h à Paris et Brazzaville, 7h à Beyrouth et 5h en temps universel.
RFI Matin,
Andréane Mélard.
RFI Matin commence avec le journal de Gaëtan Plenet. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Une fin à très court terme de la guerre en Iran, Emmanuel Macron n'y croit pas.
Pour le président français, ça va durer, alors il s'y prépare en déployant un dispositif militaire maritime inédit en Méditerranée orientale, mais en tant que puissance de paix et d'équilibre, dit-il. En attendant, les frappes israéliennes et américaines se poursuivent en Iran, des frappes israéliennes aussi tôt ce matin contre des bastions du Hezbollah au Liban, où les réfugiés sont de plus en plus nombreux, vous les entendrez. Dans ce journal également, début chaotique au procès de l'ex-maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Première audience marquée par une altercation verbale avec le président du tribunal. Notre correspondante nous en fera le récit. Et puis on va parler aussi des États-Unis qui qualifient désormais d'organisation terroriste les frères musulmans au Soudan.
Quand la fin de la guerre avec l'Iran?
C'est nous qui déciderons, disent les gardiens de la révolution. Mais pour Donald Trump, ce sera bientôt, très bientôt, a-t-il dit lors d'une conférence de presse hier à Miami, sa première depuis le début des frappes israélo-américaines sur la République islamique. Après avoir initialement évoqué un conflit qui pourrait durer 4 ou 5 semaines, le président américain dit maintenant que l'évolution est en avance sur le calendrier. Il menace quand même de frapper l'Iran beaucoup plus fort si, je cite, le pays prenait le monde en otage en bloquant le détroit d'Ormuz, celui par lequel transite 20% de la production mondiale de pétrole. Une déclaration qui a permis de calmer un petit peu les cours du brut après des envolées depuis plusieurs jours.
Mais le trafic reste très perturbé dans ce détroit d'Ormuz.
Alors Emmanuel Macron esquisse les contours d'une mission internationale purement défensive afin d'y escorter les navires après la sortie de la phase la plus chaude du conflit, a dit hier le président français, qui s'est rendu à Chypre, où une base aérienne britannique a été frappée par des drones iraniens, mais aussi sur le porte-avions Charles de Gaulle, en ce moment au large de la Crète, dans le cadre d'un déploiement militaire français pour faire face à l'embrasement régional. Valérie Gasse, la France mène sa diplomatie et se prépare à un conflit qui va durer.
Emmanuel Macron l'a reconnu quand il a pris la parole à bord du Charles de Gaulle.
Rien n'indique que cette guerre cessera dans les jours à venir.
La clé, c'est la clarification des buts stratégiques des États-Unis et d'Israël, explique le chef de l'État.
Je ne pense pas qu'on puisse avoir des changements profonds de régime, de système politique uniquement par des bombardements. Par contre, si l'effet final recherché est de neutraliser des capacités balistiques, une marine, c'est possible dans un temps de quelques semaines.
L'incertitude demeure dans le camp français malgré les échanges qu'Emmanuel Macron a eus avec Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Qu'est-ce qui pourrait amener le président américain à mettre les bombardements en pause pour commencer à discuter? S'il le faisait, comment réagiraient les Israéliens? Pas sûr qu'ils arrêteraient leurs opérations. Le risque d'escalade est réel, notamment parce que le danger d'une surréaction de l'Iran existe. Tous les ingrédients d'un conflit à l'issue imprévisible sont réunis. Malgré cela, Emmanuel Macron affiche toujours la même ambition.
Nous agissons là comme puissance de paix, puissance d'équilibre.
La diplomatie et le déploiement militaire au cas où pour préserver les intérêts français dans tous les cas de figure.
Et nous sommes vigilants à la situation du Liban, a aussi dit le président français.
Et ce, plus d'une semaine maintenant après la reprise là-bas des frappes israéliennes en représailles à des attaques du Hezbollah pro-iranien. Le président libanais Joseph Aoun accuse d'ailleurs le mouvement chiite de vouloir provoquer l'effondrement du Liban, où l'Agence nationale d'information fait état ce matin de frappes dans le sud et l'est du pays. On parle déjà de près de 500 morts au Liban depuis cette semaine, un demi-million de déplacés aussi. L'affluence de ces déplacés est telle qu'un cinéma de Beyrouth leur a ouvert ses portes. Reportage de Sophie Guignon.
À Hamra, le théâtre et cinéma historique du Colisée accueille des déplacés. Sur la scène, les enfants s'échauffent et font des mimes.
Imagine que la guerre te tire vers l'arrière et que toi, tu essayes d'aller vers l'avant.
Une parenthèse à l'abri des bombes pour Shadon Rezeddin, 18 ans, venu de Tyr avec sa famille.
Je suis toujours stressée, qu'est-ce qui se passe, les nouvelles. Donc tout ce que je pense, je mets ça au théâtre. Comme si ça me règle, ça règle mes sentiments. Donc là, c'est un peu genre calmant, si on peut dire.
Le Colisée date de 1945. Abandonné pendant un temps, il a été restauré par l'association de Kassem Stambouli, acteur et réalisateur. Lors de la dernière guerre de 2024, le théâtre avait déjà ouvert ses portes aux déplacés.
Le théâtre doit rester ouvert aux gens, en temps de guerre ou en temps de paix. C'est une forme de résistance culturelle. Aujourd'hui, le théâtre a été transformé en maison. Les gens dorment dans les gradins. Ils vivent ici de manière quotidienne. Ils y cuisinent. Les enfants participent à des ateliers de théâtre et on utilise le théâtre pour soigner. Ça permet aux déplacés d'évacuer le stress qu'ils traversent.
L'ONG Human Rights Watch rappelle que le déplacement forcé de population est un crime de guerre. Sophie Guignon, Beyrouth RFI.
Et si les pays du Golfe affirment ne pas s'impliquer directement dans cette guerre, ils continuent pourtant à être visés par des drones et des missiles iraniens.
Le ministère de l'Intérieur de Bahreïn annonce ce matin qu'une attaque sur une zone résidentielle de la capitale Manama a fait un mort et plusieurs blessés. Dimanche déjà, une station de dessalement d'eau de mer avait été visée dans le pays. C'est un petit peu le point faible des États du Golfe et c'est un signal dangereux pour toute la région, Stéphanie Schuller.
Le Moyen-Orient fait partie des régions les plus arides de notre planète. La disponibilité de l'eau y est 10 fois inférieure à la moyenne mondiale. Les usines de désalinisation d'eau de mer jouent donc un rôle clé pour la consommation des habitants, mais aussi pour l'économie, souligne Benjamin Paul, directeur du programme Diplomatie et Sécurité Climatique chez Adelphi, un centre de recherche basé en Allemagne.
L'eau potable est bien évidemment vitale, mais la plus grande partie de l'eau dessalée est utilisée pour l'irrigation de l'agriculture et dans l'industrie. En cas d'attaque, ces deux secteurs seraient alors massivement touchés.
Si les attaques contre les infrastructures d'eau font partie des cibles en cas de conflit depuis la nuit des temps, comme la destruction de digues ou l'empoisonnement de puits, elles constituent toujours une escalade de la guerre.
L'eau a un effet symbolique et psychologique, car tout le monde sait qu'elle est absolument essentielle à la vie. Et si quelqu'un me coupe l'eau, cela constitue une attaque existentielle qui ne peut qu'exacerber l'hostilité.
Les attaques contre les infrastructures indispensables à la survie de la population civile, comme les usines de dessalement d'eau de mer, sont strictement interdites par le droit international humanitaire.
La précision de Stéphanie Schuller. Signalons ces déclarations il y a quelques minutes du ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Il affirme que l'Iran ne fera pas de négociations avec les États-Unis. Ce n'est plus à l'ordre du jour, dit-il. Et puis il dit aussi que l'Iran poursuivra ses attaques aussi longtemps que nécessaire. Ce genre de déclaration, vous les retrouvez évidemment dans notre direct sur RFI.fr. Et puis c'est dans ce contexte que s'ouvre aujourd'hui à Paris le deuxième sommet du nucléaire. L'idée, c'est de donner un nouvel élan à son usage civil à travers le monde. Une 60aine de pays vont y participer. On va avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure avec le grand invité de la rédaction, Raphaël Grossi, directeur général de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il répondra à Arnaud Pontus après le journal de 6h en temps universel. Ce rapport de l'ONG Human Rights Watch ce matin, elle dénonce des frappes de drones menées à grande échelle par Haïti pour lutter contre les gangs armés, des frappes qui auraient tué en un an des dizaines de personnes qui n'appartenaient pourtant pas à des groupes criminels, notamment des enfants.
En Turquie, on savait que le procès serait très long. On sait maintenant qu'il sera aussi particulièrement tendu.
À l'image de la première audience hier devant le tribunal de Silivri, à quelques dizaines de kilomètres d'Istanbul. À la barre, celui qui fut le maire d'Istanbul avant d'être destitué, Ekrem İmamoğlu. Détenu depuis près d'un an, il est visé par 142 chefs d'accusation, soupçonné notamment d'avoir dirigé un vaste réseau criminel. Lui dénonce surtout des entraves judiciaires pour l'empêcher de se présenter à la prochaine présidentielle, considérée, c'est vrai, comme un possible vainqueur face à Recep Tayyip Erdogan, l'actuel chef de l'État. Un récit de cette première journée d'audience depuis Ankara avec Anand Glower.
Ce fut un début chaotique et extrêmement tendu pour un procès qui s'annonce fleuve. Dès l'ouverture de l'audience, Ekrem İmamoğlu a voulu prendre la parole. Tu l'as demandé, moi j'ai refusé, a rétorqué le président du tribunal, le tutoyant systématiquement. Le public, qui avait copieusement applaudi le principal accusé, s'est mis à crier « vous, vous, vous » pour corriger le juge, qui a fini par quitter la salle et suspendre la séance 15 minutes après le début. « Tu ne t'en sortiras pas en fuyant », lui a alors crié Ekrem İmamoğlu. Ce dernier, emprisonné depuis presque un an, voulait contester l'ordre dans lequel les 402 accusés du procès seront appelés à la barre. Le maire déchu d'Istanbul est inscrit en dernier, alors qu'il risque à lui seul plus de 2300 ans de prison. À la reprise de séance, plusieurs avocats de la défense ont mis en doute l'impartialité et la compétence des juges et demandé leur récusation. Demande encore une fois rejetée par le président du tribunal qui a ajourné l'audience. Cette première journée pourrait bien donner le ton des débats à venir qui reprennent dès ce mardi. Selon la Défense, les audiences devraient se poursuivre à raison de 4 par semaine. Un Angloueur, Ankara, RFI.
Les frères musulmans au Soudan sont une organisation terroriste.
C'est en tout cas désormais la qualification américaine, ouvrant la voie à des sanctions financières et administratives qui sont effectives dès lundi prochain. Washington vise en particulier un mouvement islamiste dont la branche armée se rend coupable d'exactions et est alliée à l'armée dirigée par le général Al-Bourhan. Les explications d'Alexandra Brangeon.
C'est le mouvement islamique soudanais et sa branche armée, la brigade El-Bara bin Malik, qui sont visés par Washington. Selon le communiqué du département d'État, ces groupes utilisent une violence excessive contre les civils et font la promotion d'une idéologie islamiste extrémiste. Washington accuse notamment la brigade El-Bara bin Malik d'avoir fourni près de 20 000 hommes à l'armée régulière soudanaise, des combattants formés et soutenus par l'Iran et qui ont procédé à des exécutions massives, affirme le département d'État. Cette brigade a en effet été accusée par les Nations Unies d'avoir exécuté sommairement de nombreux civils lors de la reprise de Khartoum par l'armée régulière il y a tout juste un an. En qualifiant d'organisation terroriste ces mouvements alliés à l'armée soudanaise, Washington met en garde le chef de l'armée, le général El-Bourhan, contre ses soutiens islamistes. Depuis des mois, les États-Unis avertissent contre un retour des islamistes de l'ancien régime d'Omar el-Béchir.
Alexandra Brangeon, signalons aussi que les États-Unis ont officialisé l'inscription de l'Afghanistan, cette fois sur leur liste noire des pays pratiquant, je cite, des détentions injustifiées.
On reste aux États-Unis, Gaëtan, avec ce procès qui pourrait tourner court.
À celui du producteur de spectacle Live Nation. Il s'est ouvert ce procès il y a une semaine sur des accusations de pratiques anticoncurrentielles. Mais on apprend qu'un accord à l'amiable a été signé avec le département de la justice, Olivier Roger.
Pour le géant américain, l'essentiel est préservé. L'accord signé avec le département de la justice lui permet de conserver sa filiale Ticketmaster, achetée en 2010, une billetterie en ligne jugée essentielle à son activité. Le producteur de spectacle, qui détient 460 salles aux États-Unis, était accusé de pratiques monopolistiques forçant les artistes à s'engager avec lui et faisant peser sur le consommateur un prix élevé sur les billets vendus. Pour éviter de telles dérives à l'avenir, le ministère américain limite la capacité de Live Nation à négocier des contrats d'exclusivité avec les salles de spectacle pour leur billetterie. Il lui impose aussi d'accepter des producteurs concurrents dans le réseau qu'il contrôle. Par ailleurs, Live Nation doit céder 13 salles et s'acquitter de dommages et intérêts faramineux qui pourraient atteindre au final 280 millions de dollars. Si l'accord souligne donc les pratiques anticoncurrentielles de la firme, en revanche, il ne prévoit pas la scission du groupe, ce que ne fait plus la justice américaine dans ce type d'affaires depuis 40 ans, selon un responsable du ministère. L'accord doit désormais être validé par le tribunal fédéral de New York.
Et si c'est bien le cas, le procès sera officiellement terminé. Cela dit, une partie des 39 États qui sont associés à la procédure pourraient déposer un recours afin d'obtenir un nouveau procès. Un tout petit mot de football. Avec le début des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions ce soir, 3 matchs au programme. Galatasaray accueille Liverpool. Barcelone se déplace à Newcastle, tandis que l'Atlético Madrid reçoit Tottenham.
Et le PSG affrontera Chelsea demain, notre journal des sports avec Antoine Grenier à suivre dans une demi-heure. Merci Gaëtan Plenet. Et à vous qui nous écoutez, bonjour, bienvenue RFI Matin. Commence tout de suite mardi 10 mars 2026. La guerre entre aujourd'hui dans son 11e jour. L'Iran aidé du Hezbollah face à Israël et les États-Unis. Ce conflit va se terminer bientôt, promet Donald Trump, quand les gardiens de la révolution assurent de leur côté. C'est nous qui déciderons de la fin de la guerre. Voilà où nous en sommes un peu ce matin, sans oublier ces nouvelles frappes qui ont déchiré la nuit. On va tenter à nouveau de vous expliquer au mieux et au plus près la situation avec nos correspondants et envoyés spéciaux en Iran, au Liban, en Israël et dans le Golfe. Une guerre et toutes ses conséquences sur l'économie mondiale, notamment alors que le détroit d'Hormuz est toujours paralysé, que les cours du pétrole flambent et pour les automobilistes du monde entier, eh bien, ça ne signifie qu'une chose, l'augmentation des prix à la pompe. Illustration au Nigeria ce matin. En une semaine, le prix de l'essence, le prix du litre a augmenté de 20%.
J'ai peur car ça va encore augmenter. Tant que les combats au Moyen-Orient dureront, les prix grimperont. Est-ce que le gouvernement peut nous aider ? car là j'ai pitié des passagers vu leur salaire. Normalement, un trajet coûte 800 Naira. Aujourd'hui, on est passé à 1000 Naira le trajet.
Reportage à écouter en intégralité dans le prochain journal. Nous serons aussi ce matin en Sierra Leone et avec notre grand invité Afrique, l'économiste bissau-guinéen Carlos Lopez. On va parler des conséquences sur le continent de cette guerre en cours initiée par Israël et les États-Unis. Entretien avec Charlotte Hydrac à suivre dans une demi-heure. La guerre que vous évoquerez aussi avec votre invité, Arnaud Pontus. Bonjour.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À 7h20, vous serez en ligne avec Raphaël Mariano Grossi, directeur général de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique.
Oui, il est le gendarme du nucléaire et incarne la seule autorité indépendante capable de dire avec précision où en est le programme nucléaire iranien. Ce programme au cœur de la guerre, de son déclenchement, de sa justification.
Et Frangine, pourquoi tu te caches? Fais pas la gueule. Donne-moi la main. Tous les deux, on va le faire. Il faut y aller, on va grandir. Prends tes affaires. Le monde entier y est passé. On n'est pas seul. Me regarde pas comme ça, avec tes yeux. Quand tu m'observes, et c'est trop dur de te dire non. Depuis toujours, on nous a chanté la chanson. On va pousser ensemble et on sera jamais vieux.
Encore un peu, encore quelques années ici. Je veux rester la gosse qui se cache en haut de l'arbre. Pour que jamais y ait mon nom sur une plaque de marbre. Rester blotti, garder encore les clés du nid. Comprends-moi, ne fais rien. Mon cœur appartient à l'enfance.
Comprends-moi, allez viens. Allez viens, on se lance.
Grandir c'est quoi? Grandir c'est quand moi je m'en fous. Ici c'est beau, pas sûr qu'après ce sera pareil.
Je te promets pas des monts, je te jure pas des merveilles. Des jours avec et des lendemains debout.
Laisse-moi danser dans mes années. Vas-y sans moi découvrir ton bel inconnu. Et reviens-moi un jour pour me décrire la vue.
Non, non, je t'en prie, me fais pas le coup de l'orpheline. Y'a bien trop de gens tout seuls pour y jouer à faire semblant. Des adultes de naissance chez qui l'enfant ça fait chou blanc. Allez, pose tes épines, frangine.
Comprends-moi, ne fais rien. Mon cœur appartient à l'enfance.
Comprends-moi, allez viens. Allez viens, on se lance. On se lance dans le ballet des premières fois. Paraît que c'est chouette d'avoir une autre langue dans sa bouche. Je veux goûter aux doigts de l'amour qui me touche. Mettre du tabac dans nos clopes en chocolat.
Laisse-moi danser dans mes années. Je reste ici croquer quelques instants de rab. Je veux encore faire la course avec mon cartable.
Allez Frangine, donne-moi la main. Viens, on leur montre. Qu'on va y croire au lendemain qui se sublime. Au lendemain, espoir qui se danse dans l'intime. Au lendemain, debout, fierté de nos débuts. Au lendemain, écrit au lendemain qui crie. On va danser dans nos années. Allez, danse, Oui, frangine danse. Au lendemain, confiance, au lendemain, enfance.
Au lendemain, bêtise, au lendemain, friandise.
Au lendemain, la suite, au lendemain, qui milite. Au lendemain, écrit, au lendemain, qui crie. Qu'on se battra pour des jours qui inspirent. Qu'on écrira pour tous ceux qui respirent. Dans le sourire de nos matins qui se bonsoir. Au lendemain, y croire. Allez, frangine, donne-moi la main. Viens, on grandit. Viens, on y croit. Au lendemain.
Y croit. Au lendemain.
Les deux chanteurs du groupe NTM, Nick Tamer, ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Toulon à 3 mois de prison ferme et à 6 mois d'interdiction d'exercer leur métier sur l'ensemble du territoire français.
Scandale avec les syndicats policiers, premier scandale, à cause de bougie de femme de flic. Deuxième scandale en 95, dans le deuxième CD, donc qui s'appelait 95 200, avec Sacrifice de poulet.
Monsieur R, dont le dernier album, politiquement incorrect, s'est attiré les foudres d'un député du Sud.
Nicolas Sarkozy a même aussi annulé le concert qui devait avoir lieu la semaine dernière. Les membres de Sniper ont évidemment répliqué aussitôt.
La rumeur existe depuis 1996. Et d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur a porté plainte contre vous. Il y aura un procès parce que vous avez déclaré « Des centaines d'entre nous sont tombés sous les balles de la police ».
La chanson de Youssoufa, il faut la citer quand même. C'est « Je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour ». C'est une menace de mort.
Les accusations sont graves, mais comme d'hab, on fait un vexé. C'est vrai qu'on est trop hard et puis notre art est de vous vexer. Pas de menace de mort, le rap ne sort pas de douille, mais c'est le seul son hardcore depuis que le rock n'a plus de couilles. C'est un nouveau record de polémique, on dit que je chante le mal. Je vous l'avais dit qu'il y a des indices, les dizaines gentlemen. Et dans leur bêtise, ils confondent crime et islam. Ils m'auraient trouvé plus gentil si je ne faisais que des sommes. Coupable idéal, MC mercenaire. La rumeur dit que les NTM sont des snipers de la morale comme Monsieur R. Pas facile d'ignorer ça, pas facile d'opérer seul à la place de Orelsan. Moi c'est clair que j'aurais le seum. On a les critiques imparables d'une France qui oublie que les paroles de son hymne sont plus violentes que celles du gangsta rap. Je défends la cause des frères au sud qui rêvent du nord, mais ma liberté d'expression en chute est sous menace de mort. Yeah, il est grand temps, ça déménage. Il n'y a jamais de temps irrémédiable. Sont illégales, je fais du rap et ce que t'entends est illégal. Hier, yeah, il est grand temps, ça déménage. Il n'y a jamais de temps irrémédiable. Hier, yeah, les enfants sont illégales. Je fais du rap et ce que t'entends est illégal.
Je pense que le rap est une sous-culture, d'analphabète. Mais je suis désolé, vous avez déjà entendu les paroles des rappeurs.
Depuis le temps, je guettais ce type qui vous mène à la baguette, mais. Parle de race en tête et puis nous traite d'un alphabet. J'ai dit que j'étais du genre à réagir sur le BPM. Je ne tends pas la joue comme celui qui a vu le jour à Bethlehem. Une seule ligne, tant à force de le dire, où j'exprime tout mon mépris et là ça morce le délire. Des mots accusateurs pour les rappeurs, j'en retrouve 10 000. C'est vrai qu'on touche le fond chez ce bouffon de Morandini, mais sans rancune. De ma plume, je connais le tarot et la droite des chaînes m'affiche à la une du Figaro. Encore un article pour faire mentir le baromètre qui me confirme que certains journalistes de merde sont malhonnêtes. Nous sommes pas du même monde, l'hexagone va mal. Mais j'espère pas que mon prénom vous a subitement rappelé celui de Fofana. Et la police aboie pour que le tribunal me morde. Ça suffit pour qu'un juge m'inculpe pour menace de mort. C'est yeah, ça, mais il est grand temps, ça déménage. Il n'y a jamais de temps irrémédiable. Les enfants sont inégales. Je fais du rap et ce que t'entends est illégal. Hier, yeah, il est grand temps, ça déménage. Il n'y a jamais de temps irrémédiable. Hier, yeah, les enfants sont inégales. Je fais du rap et ce que t'entends. Bien sûr qu'il y a de la rage dans nos propos. Mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose. J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position.
Il y a de la rage dans nos propos.
Mais comment rester sage vu l'image de la fille que l'on nous propose?
J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition.
Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position?
Il y a la rage en nos propos. Mais comment rester sage vu l'image de la fille que l'on nous propose? Je plaide la légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Il y a de la rage dans nos propos. Mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose? J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Il y a de la rage dans nos propos. Mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose? J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Noir désir.
Get it. I just drank a sip of my juice box. I'm ready to go.
À Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principactif.net. Principe Actif, le mix des cultures.
Someday you will